Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h09 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci beaucoup de votre fidélité. Si vous avez raté la première heure, n'hésitez pas à aller podcaster cette émission. Toujours avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Cyril Marais, Denis Charvet. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour des nouvelles révélations fracassantes contre la Fédération Française de Football. Ces affaires peuvent-elles plomber la Coupe du Monde des Bleus? 10h30, la Formule 1, le règlement gâche-t-il complètement la saison? Et puis 11h, c'est l'événement de la semaine, c'est le bras de fer. Enfin, l'événement de la semaine, c'est surtout la retraite du roi Federer quelques jours après la retraite de la reine Serena. Qui a le plus marqué l'histoire? Il y aura une team Federer et une team Serena.
Je voudrais dire au tennis, je t'aime et je ne t'oublierai pas.
I love you and will never leave you.
Nous aussi on t'aime Roger Federer, même si certains ont pris le camp Serena Williams. Dans les grandes gueules du sport, ce week-end nous vous offrons des places pour assister à une soirée de haute voltige en assistant aux internationaux de France de gymnastique. Ce sera le samedi 24 et dimanche 25 septembre à l'Accor Arena de Paris. Pour repartir avec vos places, vous composez le 32-16 pour donc les internationaux de France de gymnastique. Marguerite de Navarre a dit un jour: le scandale est souvent pire que le péché.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
La frappe de Griezmann, le contre-pied parfait. Et le but de l'équipe de France. Lloris qui dégage. Et Pitana qui cible. La France est championne du monde.
Officieusement, cela ressemble à une convocation. Ce n'est pas un rendez-vous de courtoisie.
Je crois que j'ai plombé l'ambiance.
La pression devrait s'accentuer sur le patron de la FFF, Noël Le Graët, 80 ans, se voit fragilisé par une affaire qui pollue l'atmosphère de la fédération.
Bonjour l'ambiance, qu'est-ce que c'est, mort ici?
À 10 semaines maintenant de la Coupe du Monde.
C'est pas le climat des plus apaisés que j'ai pu connaître. Il faudra faire beaucoup plus pour se préparer par rapport à l'échéance qui est la nôtre.
Je suis désolé de péter l'ambiance, mais
c'est ni l'endroit ni le moment.
On a connu meilleure préparation. À 2 mois pile de la Coupe du Monde, la Fédération Française de Football est embarquée dans un tourbillon médiatique et peut-être bientôt judiciaire. Quelques jours après la publication d'une enquête de SoFoot sur la 3F, quelques minutes après la convocation de Noël Le Graët au ministère des Sports, de nouvelles allégations sordides ont été publiées hier, cette fois par le média Jocimar, sous la plume du journaliste Romain Molina. Il met en cause la Fédération pour avoir gardé le silence sur des abus sexuels au sein de la Fédération, ou même à Clairefontaine, pendant 40 ans, interrogé sur les affaires. Jeudi, en conférence de presse, Didier Deschamps disait déjà ceci.
C'est pas le climat des plus apaisés que j'ai pu connaître. C'est de l'instantané, c'est beaucoup de buzz, asséner des vérités qui le sont pas. Je vais pas répondre à chaque point bien précis. Évidemment, c'est pas l'idéal. Ce que je peux vous assurer, c'est que l'unité et la force en interne, elle est là et tout est sous contrôle, mais on n'est pas à l'abri de une déclaration. Je sais pas ce qui a pu arriver, ce qui peut arriver. Il y a des impondérables. Soit on sait, soit on sait pas. Il y en a peut-être aussi qui disent je sais, mais ils ne savent pas. Ça amène un climat assez perturbé.
Climat assez perturbé. La musique qui fout les jetons et cette question. Les affaires peuvent-elles plomber la Coupe du Monde des Bleus? Oui ou non? Marion Bartoli.
Non.
Cyril Marais.
Oui.
Denis Charvet.
Non.
Christophe Cessieux.
Non.
Plutôt non pour
pas
toi.
Pas le sportif.
Mais... Ok, avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier. Salut, Nicolas.
Salut les GG.
Alors que disent ces nouvelles révélations?
C'est une enquête intitulée 40 ans de silence où l'auteur assure que pendant des années, Noël Le Graët et d'autres hauts responsables de la fédération ont dissimulé de multiples cas d'abus sexuels, y compris des abus sur des joueurs mineurs. Dans les faits, c'est la description d'une loi du silence institutionnel. Quand quelque chose arrive, tu fermes ta gueule, témoigne un ancien membre du conseil d'administration de la FFF. C'est comme ça que ça marche. Ils sont trop puissants. Dès que vous parlez d'abus, vous êtes hors jeu, ajoute-t-il. Selon cette enquête, plusieurs cas ont secoué l'instance du football français. Le cas d'Angélique Rouras, de David San José, la première citée, ancienne internationale française et ex-responsable de la section féminine du centre de formation de Clairefontaine, a été limogée il y a 9 ans par la FFF à cause de relations sexuelles avec des joueuses mineures. David San José, quant à lui, a été limogé par la FFF en 2020 pour comportement inapproprié envers un jeune de 13 ans à Clairefontaine. L'enquête développe ainsi plusieurs cas extrêmement extrêmement inquiétant. Et avec toutes ces révélations, l'enquête montre aussi que la FFF n'a saisi les autorités judiciaires qu'une seule fois. On rappelle que de ne pas informer les autorités judiciaires lorsque l'on a connaissance d'un délit peut être sanctionné de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Après les révélations de SoFoot la semaine dernière, le ministère des Sports a lancé hier matin un audit à la suite d'une réunion avec Noël Le Graët et Florence Ardoin, la directrice générale de la Fédération. Un audit qui concerne le pilotage de la 3F et le respect des obligations qui s'y attachent. À 2 mois du Mondial au Qatar, les affaires s'accumulent. L'audit doit durer plusieurs semaines et il sera effectué par des inspecteurs indépendants.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour toutes ces précisions. Ces affaires peuvent être plombées. La Coupe du Monde des Bleus, c'est non pour toi Marion Bartoli. Pourquoi ?
C'est non, parce que, en fait, bien évidemment, les affaires internes, si elles sont avérées, sont absolument dramatiques. Il doit y avoir un immense ménage qui doit être réalisé à la FFF, ça c'est certain. Mais je pense vraiment pas que les joueurs soient affectés par cela, parce que je pense que, déjà, ils se sentent pas concernés réellement par ces affaires. Et ils ont des préparations complètement différentes. Ils sont dans leur club, ils sont en train de jouer leur match de club, ils vont jouer leur match de Ligue des Champions. Derrière, ils sont en rassemblement avec l'équipe de France. Ils vont partir pour essayer de se rattraper du mauvais euro qu'ils ont réalisé, d'essayer de défendre leur titre de champion du monde. Je pense vraiment pas qu'ils soient focalisés sur les problèmes en interne de la FFF et des problèmes de Noël Le Graët. Je pense vraiment pas qu'ils sont du tout concernés par ça. Je vois pas Benzema être concerné par ça. Je vois pas Mbappé être concerné par ça. Et tout le reste de l'équipe. Le seul qui peut être un petit peu tracassé, c'est éventuellement Didier Deschamps, qui lui est plus en contact avec Noël Le Graët, qui peut ressentir une certaine pression, les questions qui s'accumulent dans les conférences de presse, éventuellement. Mais je vois pas les joueurs en train d'être perturbés par ce genre d'affaires. Et encore une fois, si bien évidemment elles sont avérées, un immense ménage doit être fait à la Fédération Française de Football, et c'est totalement inadmissible. Mais sur le plan du sportif, je ne vois pas l'équipe de France être perturbée.
Ok, cette semaine, Hugo Lloris a déclaré, après un match de Ligue des Champions de son club Tottenham, à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est important de rester solidaire et concentré sur l'objectif. Ça s'éparpille un peu trop en ce moment. Voilà ce qu'il nous dit, il faut se ressouder un petit peu. Cyril Marais.
Justement, Marion, enfin, moi, comme tu l'as dit, c'est... Si c'est avéré, c'est dramatique, mais c'est des choses qui sont trop graves. C'est trop grave pour que ça te passe au-dessus de la tête, même en tant que sportif. Donc pour moi, indirectement, on a été concerné par le judo aussi. Voilà, forcément, c'est malheureux. À partir du moment où tu as des enfants, où tu as des clubs, des trucs comme ça, ben, quelquefois, il peut y avoir des prédateurs sexuels. C'est quelque chose d'horrible. Et je pense qu'en tant que sportif, mais avant tout en tant qu'humain, tu peux pas passer à côté de ces choses-là. Donc tu te sens indirectement un peu concerné par rapport à ça.
Mais tu vois, Cyril, on a eu le problème aussi à la Fédération Française de Tennis.
Oui, mais c'est des choses
qu'en fait. On l'a vu avec Isabelle de Mongeau et son film. On l'a vu récemment avec Fiona Ferro et les déclarations qu'elle a faites. Tu vois, Caroline, c'était exactement pendant l'US Open, ça n'a pas empêché Caroline Garcia de faire demi-finale de l'US Open. À un moment donné, bien évidemment que c'est dramatique et bien sûr qu'il ne faut absolument pas rester insensible, ça je ne discute pas du tout là-dessus. Mais je ne pense pas que les joueurs se sentent totalement concernés, se disent qu'ils n'arriveront pas à taper dans un
dire,
ballon.
Juste pour aller au bout de mon raisonnement, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, là, il va y avoir énormément de conférences de presse en préparation du mondial. C'est des questions qui vont revenir à chaque fois.
Ouais,
des questions
qui vont revenir. Bien sûr. Ouais, il va zapper. Moi, je pense que, contrairement à ce que tu dis, Cyril, je pense que quand tu rentres dans une compétition, tu es dans une bulle.
Oui, mais la bulle, elle est crevée effectivement par les conférences de presse, par les questions des journalistes qui vont devenir
joueurs. Je parle des joueurs.
Là, je pense qu'on est au début de cette histoire.
Je te dis, moi, je pense que ça atteint pas les joueurs, et contrairement, c'est des compétiteurs, et que la seule bulle qui peut éclater, c'est qu'en interne, à l'intérieur, elle vient des joueurs, comme ça s'est passé en 2010. En Afrique du Sud. Donc celle-là, oui, là, celle-là, tu peux la craindre. Mais là, le groupe est soudé. Je pense que il va y avoir des discussions internes. Tout ça va être balayé il va y avoir un focus sur la Coupe du Monde. J'y crois pas une seconde. Okay. Je pense que la Coupe du Monde est plus importante que ces affaires-là.
Le sportif reste le sportif.
Je pense que moi, j'étais plutôt d'accord avec toi et avec Marion. Et puis ce matin, j'ai lu quand même tous les papiers. Et je pense qu'on est au début d'une immense, une énorme affaire.
Oui, bon,
ça va prendre une ampleur considérable. Ah oui, non, mais là, ça vient de tous les côtés. Là, toutes les enquêtes de presse sont d'accord, sont unanimes. Il se passe des choses terribles dans cette fédération. Tout a été mis sous le tapis, caché dans le silence depuis des années. Et là, c'est en train de ressortir. Et ça ne va que ressortir, parce qu'à mon avis, il y en a certains qui continuent de garder le silence, et ça va ressortir d'ici la Coupe du Monde. Donc, tout le monde ne va parler que de ça pendant les deux mois qui vont précéder la Coupe du Monde. Dans les conférences de presse, Didier Deschamps, je suis désolé, mais sa défense l'autre jour en conférence de presse, je l'ai trouvé lamentable. Ouais. Il attaque la presse en disant que c'est des mensonges et tout. Il faut qu'il fasse gaffe quand même, hein, parce que là, on est à la veille d'un tsunami. Il va avoir bonne mine, hein, le jour où les choses vont être vraiment avérées et que la justice va se mêler du truc. Donc, il peut être impacté. Les joueurs, quand on va leur poser la question tous les jours en conférence de presse,
oui, c'est logique que Deschamps réponde de ça.
Il est très très fort pour botter en touche à chaque fois avec la langue de bois.
Mais tu qu'il dise quoi là dans le cas précis
je ne parle que des problèmes sportifs. Le reste, la justice s'en charge. Je n'ai rien à dire là-dessus. Et t'es tranquille. Là, il s'est embarqué dans un truc.
Où il apporte le soutien à Noël Le Graët. Donc c'est sûr que ça peut lui revenir.
Donc je pense. Alors j'espère que les mecs vont rester dans leur bulle. Mais comme le disait Cyril, la répétition et le la bulle, j'y crois pas, la bulle elle va être percée à chaque fois qu'il va y avoir une conférence de presse, à chaque fois qu'il
c'est
va y avoir
de le protéger tout le monde. C'est son rôle.
Ah ouais,
c'est son rôle.
C'est pas protéger
Deschamps il se dédouane pas du président, mais qu'il fasse la part des choses. Là, je te rejoins quand par rapport à ce qu'il a sa réponse, je pense que là il était obligé de répondre ça et que maintenant il va falloir qu'il ait un autre discours par rapport aux joueurs pour protéger son groupe. Je le pense parce que si c'est pas ça effectivement la bulle
après, peut être. Après c'est beaucoup plus grave hein, bien sûr, mais quand tu vois juste l'histoire du char à voile en fait Galtier sur le moment ça me fait rigoler parce que voilà c'est rigolo de la manière dont c'est sorti, mais en fait l'ampleur que ça prend, donc aujourd'hui quand tu vois des choses aussi graves ça peut prendre une ampleur incroyable là aujourd'hui ça va peser sur leur tête
10 fois plus grave, 100 fois 1000 fois plus grave,
c'est incomparable. Imagine. Non, on peut pas comparer, mais ce que je veux dire c'est que ça va peser sur leur tête. Je dis pas que ça va peser sur la tête des sportifs, ça va peser sur cette ambiance en fait qui va y avoir pendant cette période, tant qu'il y aura des enquêtes, tant qu'il y aura tout ça, bah indirectement il y aura des bruits dans tous les sens, des articles et puis aujourd'hui bah tous les sportifs ils sont sur le téléphone, sur les réseaux, puis d'un seul coup encore un article,
aujourd'hui il y a qu'une page dans l'équipe
hein, tu sais. Alors non, mais ça l'équipe par contre ça les intéresse pas vraiment jusqu'à présent.
Non, il y a qu'une page.
Ils font 4 pages à chaque jour sur le procès Laporte, mais les affaires de monsieur Le Graët et les affaires de la Fédération française de football pour l'instant, ils veulent pas y toucher. Ouais. Bah non, évidemment, il y a la Coupe du monde dans 2 mois, donc il y aura pas quand même se griller avec tout le monde.
L'équipe avait sorti une enquête en 2020.
Quand même, là, franchement, ils suivent de loin ce que tous les autres médias révèlent, que ce soit SoFoot ou que ce soit Molina. Je suis désolé, mais là, maintenant, il faut s'y mettre quand même, hein, les gars.
Marion, je lisais une phrase, une citation d'Hugo Lloris cette semaine après son match de Ligue des Champions, où lui-même concède que ça fait beaucoup. Alors peut-être qu'il ne fait pas directement affaire aux affaires justement de la 3F, peut-être plus à l'histoire autour de Paul Pogba, mais quand on est joueur, on n'est pas seulement hermétique à tout ça, même si on se prépare pour une échéance. Denis est d'accord avec toi, mais il parlait quand même de climat autour de ces bleus, et quand le climat n'est pas positif, est-ce que ça pèse sur une sélection ou non? Tu n'y crois pas, toujours pas?
En fait, si tu veux, moi je pense qu'il y a deux choses à séparer. Bon, effectivement, là sur l'affaire Pogba, on est totalement, on en rigolait, effectivement, tu peux faire pas mal de blagues avec le marabout, pas le marabout, mais là, effectivement, quand tu commences à pouvoir éventuellement fissurer le groupe, c'est là où ça devient extrêmement dangereux, parce que t'as besoin d'être extrêmement soudé, il va y avoir une pression colossale sur leurs épaules. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent une National League absolument fantastique, donc ils arrivent avec pas énormément de points de repère, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de changements, il y a énormément d'absents là sur les deux derniers matchs à jouer avant la Coupe du Monde, après il n'y a plus de matchs de préparation. Donc là, la pression qui est en train de monter effectivement sur le plan sportif, elle est réelle. C'est pas la peine d'essayer de l'ignorer, elle est totalement présente. En revanche, sur tous ces dossiers en interne qui concernent des employés de la FFF, qui ne concernent pas les joueurs qui vont être sur le terrain et qui vont porter le maillot de l'équipe de France, je ne vois pas en quoi, même s'il y a des questions un petit peu dérangeantes, on va leur donner les éléments de langage qu'ils vont répéter à foison pendant toutes les conférences de presse, un peu comme des perroquets, je vois pas en quoi ça va les déranger. Encore une fois, moi, des scandales à l'intérieur de la Fédération française de tennis, parfois il y en a eu à des moments où il y avait des gros événements en équipe de France avec des sélections soit en Coupe Davis soit en Fed Cup. On te donne des éléments de langage, tu les donnes et puis après tu fais ton taf sur le terrain pour l'équipe. Je n'arrive pas à voir la corrélation entre les deux dossiers. Après je peux me tromper, j'en conçois, et peut-être que ça va prendre une ampleur encore 100 fois plus importante. et qu'on va arriver à un statut, on va parler plus que de ça, que la Fédération française va avoir vraiment une très mauvaise image à l'international et que ça va finir par affecter le sportif. Mais là, en l'état actuel, où ça en est,
non, mais effectivement,
il y a tellement de conditionnels, on sait pas si c'est réel, pas réel, il n'y a pas assez de preuves pour dire que si c'est réel, pas réel. Tu vois, c'est, enfin, les engouements médiatiques et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce que tu peux arriver à faire passer comme message erroné ou pas. Moi, tant qu'on ne m'apporte pas la preuve irréfutable et effectivement des agissements, alors si les SMS qui ont été publiés sont réels et qu'on nous les montre sur le téléphone de Loël Legrette ou qu'on en arrive à les ressortir, bien sûr que c'est totalement inadmissible et bien sûr qu'il doit être sanctionné et bien sûr qu'il doit être viré et qu'il ne doit pas terminer son mandat. Ça, c'est clair, c'est évident. Pour l'instant, il y a trop. J'arrive pas à me faire une opinion réelle parce que je n'ai pas de preuves tangibles.
Ok, Denis Charvet.
Non, le seul qui va jouer un rôle essentiel pour moi, c'est Didier Deschamps. C'est le seul. C'est le seul qui effectivement, il faut que la bulle.
Qui fait homme tampon avec Noël Le Graët.
Oui, oui.
Qu'on sait que le binôme est important. Donc,
oui, mais en même temps, tu ne peux pas reprocher à Noël Le Graët de laisser tranquille l'équipe de France aussi. Il n'est pas quand même dans les petits papiers du sportif. On est d'accord.
Bien sûr.
Non, mais c'est un avantage pour je parle là du sportif, des joueurs, pour protéger justement le groupe. Voilà, moi je crois pas que ça affectera le groupe.
Ok les copains, évidemment on suivra ce dossier.
Une anecdote concernant l'intendant qui m'a fait beaucoup rire.
Vraiment ou c'est ironique?
Non mais si, c'est assez drôle quand même, non?
Vas-y.
Être obligé de faire le voyage en camping-car, t'as pas lu cette anecdote?
Non, ça m'a échappé.
En fait, ils ont un intendant avec lequel ils sont extrêmement proches, les joueurs l'adorent.
Oui, oui, oui.
Et ils jouent même au poker ensemble, je ne vais pas citer son nom parce que voilà. Et effectivement, il avait subi une opération de la rétine et il devait être éloigné de la sélection pendant la compétition. Et il voulait tellement que cet intendant soit là qu'il l'a obligé à venir jusqu'en camping-car pour finalement même pas gagner l'euro. Écoute.
Bah voilà, mais bon.
Donc, je pense...
Alors,
on est pas en bout de surprise.
On ne peut pas gagner à tous les coups.
Bah, voilà.
On n'est pas au bout de nos surprises. Non, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cette équipe de France.
Est-ce plus écolo ou pas, en tout cas, voilà, le camping-car, ok, vous pouvez l'essayer. 10h25, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Traditionnellement, vous le savez, le samedi, le dimanche à 10h30, il y a un homme heureux, un homme en colère, Pierre Amiche. Mais Pierre Amiche va être papa dans quelques heures, donc on l'embrasse très fort, on embrasse Marie Martineau également. Et bah voilà, on le retrouvera un peu plus tard,
avec
il va prendre un congé
Pierrot.
Paternité.
On est mal marré là.
C'est fini les nuits où tu peux dormir, Pierrot, c'est terminé.
Juste, aujourd'hui, le congé paternité, c'est une petite année, non?
Oui, pas loin.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
Mais on est très heureux. Hein. Je suis pas du tout en train de critiquer parce que j'en ai profité.
Donc
on va le voir pas tout de suite. Voilà.
Ouais, ouais.
Mais il reviendra, promis, dans cette émission. Allez, à tout de suite. On va parler de Formule 1. Le règlement gâche-t-il totalement la saison? Oui ou non? Vous n'êtes pas d'accord sur ce débat? À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h30 de retour dans les GG avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Cyril Marais, Denis Charvet, c'est votre émission. Le samedi, le dimanche de 9h à midi, dans une dizaine de minutes, le zapping des GG avec notamment cette information, c'est assez rocambolesque. Patrice Evra qui aurait dit qu'il regrettait de ne pas avoir choisi la sélection sénégalaise. Mais sachez que son entourage nous a appelé hier soir, RMC Sport, et il dément cette information, donc je vous expliquerai tout ça, si ça vous intéresse évidemment, dans une dizaine de minutes.
La fin de la course, j'ai pas très bien compris, très honnêtement. Pour moi, il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait un autre tour sous safety car, donc j'ai pas compris de la voiture, mais bon, je regarderai ça et on verra si j'avais raison de la voiture ou si c'était juste une vision de la voiture qui était fausse.
C'était Charles Leclerc et dimanche, les tifosi n'ont pas aimé non plus. Lors du Grand Prix de Monza, les monoplaces ont terminé sous les sifflets. La faute à cette décision des commissaires de terminer la course sous régime de safety car, privant les spectateurs d'un finish magnifique. On retrouve Paul Lafitte, pardonnez-moi, notre journaliste.
Paul le poulpe.
La flûte. Tu veux le mettre à bord, JC1, c'est toi qui
récites. Ça sera le moyen, ça.
Non, tout va bien. Vous êtes pas de Lafitte.
C'est ça, c'est bien ça, vous monsieur Drouette. Monsieur Drouette.
Enchanté. Vous êtes là pourquoi, vous? Le règlement fait beaucoup jaser dans le paddock, Paul.
Oui, j'y sais, car il est en train de tuer à petit feu l'essence même du sport automobile, à savoir la bagarre en piste entre les meilleurs pilotes du monde, qui à coup de pénalité en tout genre, hein, se retrouve en fond de grille le jour de la course, et ce malgré de belles séances de qualification. La dernière en date, c'était à Monza il y a 6 jours, où le désordre et la confusion ont régné en véritable maître. Visé plus tôt, près de la moitié de la grille chamboulée en raison de changements moteurs, 9 pilotes concernés sur les 20 que compte le plateau de F1. Un règlement donc obsolète pour Martin Brundle, ancien pilote Benetton et McLaren, désormais commentateur pour la télévision télévision britannique, qui nuit à l'image de cette vitrine qui est aujourd'hui la Formule 1. Toto Wolff, le manager général de l'écurie Mercedes, est lui aussi monté au créneau après le fiasco du rendez-vous italien, en demandant tout simplement aux instances de la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, de revoir leur copie pour relancer l'intérêt de la compétition qui a sans conteste du plomb dans l'aile. Et si des pistes sont aujourd'hui avancées comme des points de pénalité ou des arrêts prolongés dans les stands pendant la course, rien ne permet de dire à l'heure actuelle que le règlement va s'assouplir, voire évoluer. Ajoutez à cela, agissez la mainmise de Max Verstappen sur le championnat, qui n'est pas sans rappeler les années de grande domination de Michael Schumacher sur Ferrari. Vous aurez donc légitimement le droit de penser que cette compétition a aujourd'hui perdu de sa superbe.
Merci beaucoup, Paul Lafitte, et tu restes avec nous pour ce débat sur la Formule 1. Le règlement gâche-t-il totalement la saison de F1? C'est notre question maintenant. Oui ou non? Est-ce que ce règlement gâche votre plaisir? Gâche la saison? Christophe Cessieux.
Gâche mon plaisir, oui. Gâche la saison, non.
Marion Bartoli.
Idem.
Ok. Cyril Marais.
Moi, j'ai envie de dire non. Non.
Non.
Ça gâche pas.
Ça gâche pas la saison. Denis Charvet.
Il est fou.
Le plaisir, oui, totalement.
Cyril, t'es fou.
Ok.
La saison, sûrement pas, parce qu'il y a tellement eu de beaux grands prix, il y en aura d'autres, mais sur celui de bon, dernier grand prix, c'est une catastrophe.
Ok, une catastrophe. Christophe Cessieux, tu commences.
Oui, il n'y a pas eu de beau grand prix cette saison.
Denis, t'en as eu un, je ne sais pas le souvenir. Ah, ouais. Ils sont dépassés.
En 1920.
Oui, 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 avec la bataille entre Hamilton, Charles Leclerc.
Ils
ne
sont pas négatifs tout le temps.
Non.
C'est le Grand Prix Grande Bretagne.
Heureusement, sur le nombre de grands prix qu'on arrive de temps en temps à ne pas faire la sieste pendant deux heures tous les dimanches quand même. Heureusement, de temps en temps. Mais franchement, je suis déçu par cette saison. Alors c'est vrai qu'on avait été tellement bien servi par la saison dernière. C'est incroyable bagarre jusqu'à la dernière seconde.
Oui, mais est-ce que ça, c'est la faute du règlement? C'est juste parce que Verstappen est plus fort, non?
L'année dernière, tu penses?
Non. L'année dernière, il...
Attends, Mario, j'arrive. Non, je parle de là. Je parle de cette année.
Oui,
il est plus fort.
Je parle de cette année. Est-ce que ton plaisir est gâché par le règlement ou parce qu'il n'y a pas assez
de...
Mais voilà.
Il n'y a pas de dualité.
Mon plaisir, il est gâché parce qu'il n'y a pas de rivalité. Parce qu'il y a eu un changement de réglementation qui fait qu'aujourd'hui, les Mercedes ne sont plus ce qu'elles étaient, que Hamilton n'a plus la même arme qu'il avait parce qu'il a une voiture qui n'avance pas aussi bien qu'elle le faisait l'année dernière, et que dans le même temps, t'as les Red Bull qui eux continuent à progresser avec un pilote qui est meilleur à chaque Grand Prix. Donc effectivement, tu as une
Ferrari qui pourrait éventuellement rivaliser, voilà, mais fait que des bourdes après bourdes.
Alors que eux, ils avaient une voiture pour jouer la gagne, pour embêter Verstappen.
Exactement.
Mais ils se plantent à chaque Grand Prix. Et ça, c'est pas à cause du règlement qu'il y a ça. Non, le règlement, il y a eu un changement de réglementation. On a rebattu les cartes avec des nouveaux moteurs, avec une nouvelle façon de faire.
C'est là le problème.
Mais ça, ils le font depuis toujours en Formule 1.
C'est le gel du développement des moteurs qui a tout changé.
Justement, de relancer un peu le suspense. En l'occurrence, l'année dernière, ils auraient dû rien changer parce que c'était magnifique. La fin de saison et toute la saison a été extraordinaire. Mais c'est pas le règlement. Alors évidemment, ce règlement est complètement débile. Aujourd'hui, tu n'as plus une grille qui est faite en fonction des résultats en qualification. Mais tu as 5, 10, 15 places de pénalité parce que tu as utilisé un peu plus de moteur, tu as utilisé les pneus, donc ça, personne n'y comprend rien. Après, il y a aussi le règlement concernant les fins de Grand Prix, là aussi c'est complètement débile. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est pas possible de faire se terminer un Grand Prix sous safety car, c'est pas possible. Ou tu arrêtes le Grand Prix, ou tu laisses dépasser les attardés et tu relances la course. Mais non, ça c'est pas
possible.
Mais
ça a évolué, c'était très négatif, parce que je trouve qu'au contraire, la Formule 1 a essayé d'évoluer. Alors c'est pas encore tout à fait.
Non mais l'évolution elle va pas dans le bon sens, Denis.
Non, arrête. D'accord, mais moi ce que je trouve catastrophique dernier Grand Prix, c'est que tout d'un coup tu décides que la course est finie à deux tours de l'arrivée. Voilà, ça c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Je trouve ça stupide, mais vraiment stupide.
Tu arrêtes les voitures et tu fais un restart.
Alors moi j'étais devant la télé. Il y a un safety car qui arrive. Je dis c'est génial. Tout d'un coup t'es là, tu dis tiens il va se passer encore un truc. Peut-être que Verstappen qui a gagné 4 Grands Prix déjà, peut-être qu'il va en perdre un là et c'est tant mieux pour relancer la compétitivité. Et là tu t'attends dans ton poste, tu dis c'est il a gagné. Et les voitures tournent, c'est anti-sport. Mais je comprends même pas, moi. Et eux, ils se posent pas la question. Ils se disent, il y a des millions de mecs qui vous regardent. Et là, ils sont comme ça. Ils vous laissent sans réponse. Non, mais pour moi, c'est une catastrophe.
Ok, c'est une catastrophe.
Mais je suis pas, je vais pas aussi loin que Christophe dans son analyse parce que je, Depuis un an ou deux ans, quand même, les gens se réintéressent à la Formule 1. Il y a une vraie, comment dire,
oui, mais
vraie...
là, c'est la
série qui a été faite sur Netflix.
Oui, il y a eu Netflix.
Ah ben non, la saison dernière. Mais non, c'est le final de la saison dernière, quand même.
Mais combien de saisons on s'est régalé dans les 15 dernières années? Moi, j'en ai deux. Il a effectivement l'année dernière. Il a l'année, la grande bagarre entre Rosberg et Hamilton. Autrement, chaque fois, tu as la domination d'un pilote. Alors, c'est pas de sa faute, évidemment. Il est le plus fort, mais Hamilton a dominé pendant des années. Il y a eu Schumacher avant.
Verstappen, il peut rien. Leclerc et Ferrari, ils font que des conneries.
Ça, c'est pas
tu vois ce que je veux dire. Parce que la vérité, s'ils ne faisaient pas autant de conneries, peut-être qu'on serait
donc, pas. C'est pas la faute du règlement.
Ok, elle traite.
Non, c'est pas la faute du règlement, mais je rejoins Christophe. Aujourd'hui, Max Verstappen domine la Formule 1 de la tête et des épaules. On l'a vu en Hongrie sur un circuit où il est impossible de doubler sur le tourniquet du Hungaroring. Il part en 10e position, il arrive à gagner la course. En Belgique, à Spa-Francorchamps, il part en 14e position, il arrive à gagner la course. En seulement 3 ou 4 tours, il revient sur les meilleurs et passe devant et arrive avec un boulevard d'avance, 25 secondes d'avance. Aujourd'hui, Max Verstappen, le duo Max Verstappen-Red Bull est aussi fort que l'était Ferrari avec Schumacher et Hamilton avec Mercedes. Et aujourd'hui, eh bien, il est en route pour un deuxième titre de champion du monde, malgré ce règlement qui pénalise toutes les équipes. Mais Max Verstappen est aujourd'hui le plus fort et c'est lui qui tue le championnat avec cette grande domination de son équipe Red Bull.
Cyril Marais.
Ouais, enfin, Paul, sauf qu'il y a eu.
Ah, Mario Bartoli, vas-y.
Non, vas-y, Cyril.
Ce que je voulais dire simplement, c'est que moi, aujourd'hui, ça me donne un peu plus envie de regarder la formule, le nouveau règlement. Tout simplement parce que de plafonner les budgets, qu'aujourd'hui, je suis désolé, à partir du moment où tu vas toucher à ton moteur, tu viens toucher à ton aérodynamisme, que tu recules sur la grille de départ, je pense que c'est un minimum. Et en fait, l'égalité qu'il va y avoir avec les grosses écuries et les petites écuries.
Il n'y a pas. On devrait avoir les fruits aujourd'hui.
Tu as toujours
une, deux, trois équipes qui sont largement au-dessus et les autres, elles sont larguées.
Je suis d'accord,
je veux dire, de plafonner un peu tout ça. Oui, mais l'idée de départ, elle est bonne. Mais je trouve que les résultats, ils sont pas du tout
aujourd'hui peut-être. Je pense que je vais pas rentrer dans le safety car parce que forcément, oui, c'est une aberration de voir les 10 derniers tours à Monza qui se terminent comme ça. Enfin, oui, il y a pas de spectacle, c'est nul. Mais autrement, parce que je parle juste par rapport au règlement, quand tu touches à l'aérodynamisme de la voiture, quand tu touches au moteur, et en fait, c'est forcément à chaque fois, c'est ceux qui ont le plus d'argent qui vont aller taper dans le moteur. Tu fais un avion de chasse. Regarde, on voit encore Hamilton qui est sur un veau chez Mercedes depuis le début de la saison. Ça va pas
oui,
trop.
Oui, mais c'est cyclique. Je veux dire, parfois c'est Mercedes.
C'est pas toujours la même
écurie.
Marion Bartoli trépine d'impatience. On t'écoute, Marion.
Oui, il y a plusieurs éléments. Alors, déjà, effectivement, sur les nouvelles règles. Finalement, on a essayé d'imposer ces nouvelles règles aux équipes pour essayer d'avoir des réductions de temps entre chaque place. Donc, essayer d'avoir des monoplaces qui soient environ à une seconde près pour qu'il y ait des déplacements plus faciles entre pilotes et donc qu'il y ait plus d'attractivité. Telle des courses en Hollande, donc Verstappen finit numéro 1, Russell est deuxième à 4 secondes, Leclerc est troisième à 10 secondes 9, Hamilton est quatrième à 13 secondes. En Belgique, Verstappen 1, Perez 2 à 17,8 secondes, Sainz à 26 secondes 8, Russell à 29 secondes, Alonso finit cinquième à plus d'une minute de Verstappen. Donc déjà, ce qu'ils ont voulu faire sur l'espèce d'aérodynamique avec leur... finalement, en demandant effectivement de changer complètement les designs des monoplaces, a totalement eu un effet inverse par rapport à ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire des finishes un petit peu comme le Grand Prix d'Abu Dhabi où ça se tient à moins d'une seconde et tout le monde est accroché à sa télé. Aujourd'hui, il y a des écarts qui sont absolument colossaux. Après, sur le gel finalement du développement des moteurs, puisque les moteurs vont évoluer, normalement devaient continuer à évoluer jusqu'à 2026, avec des moteurs encore plus écologiques. Ce gel a été demandé et Red Bull a mis une pression énorme l'année dernière pour obtenir ce gel parce que son motoriste Honda a stoppé son programme de F1 à la fin de la saison dernière et donc ils devaient eux-mêmes, à partir de cette saison, continuer à investir des sommes assez considérables pour continuer à développer une technologie qui était faite par Honda auparavant. Donc entre le gel des moteurs, entre effectivement l'aérodynamisme de la voiture qui a complètement changé, entre les pénalités avec 7 éléments différents du moteur qui peuvent être changés avec un certain nombre de fois, plus la safety car qui rentre en jeu, on n'y comprend absolument plus à rien. Ça devient finalement qu'à celui qui va pouvoir utiliser un peu mieux les espèces de règles qu'ils ont inventées et effectivement Verstappen qui domine archi largement tout le reste et donc la saison elle est quasiment pliée maintenant. Donc voir l'intérêt là-dedans, je n'arrive pas à le comprendre. Donc est-ce qu'ils ont détruit la Formule 1 avec tout leur règlement? Je pense largement que oui et qu'il va falloir qu'ils revoient leur copie parce que sinon plus personne va s'y intéresser. Si pour Verstappen finir à plus d'une minute par rapport au cinquième, ça va intéresser qui? Je vois pas.
Ouais, vous n'aimez pas les suprématies, j'ai bien compris. Je fais un petit peu d'humour. Hein. Mais voilà, Max Verstappen, il a quand même remporté 11 victoires en 16 courses. Et il a fait que seulement 4 pole positions. Donc oui, c'est dire si à chaque fois il a.
Les archidominations, c'est pas bon pour le sport, le spectacle, le suspense.
Le problème, c'est que ça enlève de la magie.
Ouais. Ça n'enlève rien à son talent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur pilote.
Et plus il gagnera, moins de gens sera.
Ouais. Ça a été le cas avec Vettel pendant des années. Il a archi-dominé pendant 4 ans.
Mais Schumacher, c'est le pire.
Schumacher, c'était le pire. Qui partait en pôle et qui gagnait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y avait rien. Là, aujourd'hui, tu le fais rétrogradé et 14 ans. Au moins, tu regardes le début de course, il y a du dépassement. Tu t'en vas pas.
Ok, bon, règlement ou pas règlement, si j'ai bien compris. On a eu du caviar la saison dernière. Et on aura peut-être moins de piquants ces prochaines saisons.
On peut faire un nouveau règlement. On peut faire une grille en fonction des classements au championnat du monde. C'est-à-dire que le premier championnat du monde part en dernière ligne et là tu peux avoir le spectacle là ça peut être sympa là.
Ou alors la beauté du pilote. Voilà. Bon ou pas bon. Ouais,
moi je sais que.
Voilà, là, Mario Hamilton est largement différent, excuse-moi de le dire. Alors là, il n'y a vraiment pas photo.
Et ben voilà, vu qu'il a un veau depuis le début de la saison, Hamilton toujours en pole position et on verra ce que ça donne. Voilà, c'est les propositions des GG. Évidemment, j'imagine qu'on va faire avancer la Formule 1. Merci beaucoup, Paul Laffitte, d'avoir été avec nous. À bientôt.
Bah ben, messieurs.
Sur RMC. Bon, 10h43. On se retrouve dans quelques instants. J'ai remixé plusieurs expressions qui me faisaient très envie. On se retrouve dans quelques instants, notamment au sujet du Nathalie Imbruglio concernant Patrice Evra. Je vous explique tout ça dans quelques instants. À tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h47, de retour avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Cyril Marais, Denis Charvet. À partir de 11h, le bras de fer des GG. C'est votre nouvelle séquence dans cette émission. Il faut choisir un camp. Je sais, c'est très compliqué, mais vous avez réussi à faire votre travail, mes chers GG. On va parler de la retraite de Roger Federer. Évidemment, c'est l'événement de la semaine. La retraite, il y a quelques semaines, de Serena Williams. Qui laissera une plus grande empreinte dans l'histoire? Team Federer, Team Serena, ce sera un 2 contre 2 magnifique à partir de 11h. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des GG. Le retour.
D'autres informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Un petit peu comme mon information tout à l'heure à 9h45 concernant Andy Delors. Et je trouve que vous avez été assez désagréable. Bref, la première information à vous donner, c'est Patrice Evra qui regretterait de ne pas avoir choisi la sélection sénégalaise. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Tu vas nous expliquer, mais moi j'avais un avis sur ce qu'il avait dit. Mais bon, s'il dit.
Il y a un revirement de situation dans la nuit, exactement. Marion Bartoli.
Ah ben ça m'intéresse du coup.
Ok, Cyril Marais.
Aussi,
oui. Ça t'intéresse?
On t'écoute.
Ok. En marge d'un déplacement au Ghana, l'ancien international français aurait concédé qu'il aurait aimé représenter le Sénégal, son pays natal. Voici les informations que nous avons eues hier. Je vais enlever la botte de beurre que j'ai dans la bouche. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France. Quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné la chance de choisir mon équipe nationale. Et parce que j'ai grandi en France, j'ai choisi la France. Mais j'ai compris plus tard que choisir mon propre pays est devenu politique. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français. Quand l'équipe perd, vous êtes considéré comme sénégalais. Sachez que l'entourage de Patrice Evra a fait savoir à RMC Sport hier soir que les propos tenus par Patrice Evra ont été déformés et qu'ils ne sont pas fidèles à la réalité dans la retranscription jugée incomplète faite par un journaliste présent sur place. Il est question de regret de l'ancien footballeur français concernant son choix de sélection nationale. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire, Christophe Cessieux?
S'il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça, donc il n'y a pas d'histoire.
Ok,
voilà, c'est tout. Mais j'aimerais bien quand même qu'ils fournissent la preuve qu'il n'a pas dit ça.
Pourquoi lui ne répond pas ce qui est
C'est voilà. Quoi. Après, de toute façon, avec lui, on n'en est pas une débilité près. Hein.
Ok, ça c'est fait. vous avez autre chose à rajouter? Non, mais en tout cas, c'est important parce que cette polémique était en train de monter et l'entourage a voulu faire des précisions et une correction. Et évidemment, on attend un peu plus la correction pour savoir ce qu'il a vraiment pu dire, Patrice Evra. Vous avez autre chose à ajouter ou pas, les copains?
Non,
c'est le moment où on s'en fout là. Ok, très bien. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est tombé il y a quelques heures, donc je vous livre cette information. On parle de mondiaux de cyclisme qui vont se disputer la semaine prochaine pour Julien Alaphilippe. Philippe notamment, les Français, les hommes qui ont voyagé en business jusqu'en Australie et les femmes en classe éco. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, les copains, vous me dites, Christophe Cessieux?
Non, on s'en fout.
Je sens que ça t'intéresse. Ouais. Marion Bartoli.
Ouais, non, je m'en fous pas. C'est quoi cette histoire?
Ok, Cyril Marais.
Non, on s'en fout pas. Mais...
Ok.
Je t'écoute.
Tu m'écoutes. Parfait, les copains. Alors, c'est une décision qui, évidemment, pourrait faire parler. Les mondiaux de cyclisme commencent ce dimanche. Et évidemment, l'apothéose, ce sera dimanche prochain. Ça se passe en Australie. Et sachez que pour effectuer ce long voyage, plus de 20 heures pour l'équipe de France, les équipiers de Julien Alaphilippe, double champion du monde en titre, eh bien, à voyager, ont pu bénéficier d'un voyage en business. Un confort qu'ils sont les seuls à avoir bénéficié au sein de l'équipe de France, car de leur côté, notamment, les femmes engagées également dans ces mondiaux ont dû se contenter de la classe éco.
Alors, il n'y a que les pros hommes qui ont pu avoir une place en business. Il y a les espoirs et tout ça, tout le monde était en éco. Hein.
Et la Fédé a justifié ce choix. Effectivement, on confirme cette information. C'est un choix de la DTN et de la Fédération Française de Cyclisme, un choix affirmé. Tout le monde voyage, tout le monde a voyagé en classe éco, sauf les pros hommes. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que les hommes vont défendre leur titre cette année, encore une fois, et surtout parce qu'il a fallu faire des choix économiques. Ce déplacement étant très lointain, cela coûte énormément. Si l'on voulait emmener tout le monde, il fallait faire des choix. Et donc, nous avons fait ce choix-là.
Il y a combien de pros, Christophe?
Il y a 9 coureurs en équipe de France, puisque Julien, normalement, tu en as 8, mais comme on a le champion du monde français, on a une équipe de 9. Donc, tu as 9 mecs qui ont voyagé en business.
Ce qui est certain, c'est que ça coûte très, très cher. Voilà. Et que je comprends, moi je peux comprendre.
Ok, tu peux comprendre.
Oui, mais le choix est difficile. Aujourd'hui, oui, tu peux plus faire ce genre de choix en disant les mecs en business, les nanas au fond de l'avion,
c'est
quoi,
honteux.
Dans la soute.
C'est
plus possible, c'est plus entendable aujourd'hui.
Oui, non, Marion Bartoli.
Totalement. C'est honteux. J'ai pas de mots. Comment tu peux. Et en plus, il explique. Ah oui, non, ça ne pose pas de problème. Les si, entre guillemets, ça sert à rien. Donc, on vous fout en écho 20 heures d'avion, on mettrait une semaine à en récupérer, mais c'est pas grave. Parce que, voilà, vous défendez pas de titre, vous avez pas de chance d'aller gagner quelque chose.
Il y a les espoirs hommes aussi, je l'ai dit.
Donc, par contre, les hommes, ah là oui, par contre, donc là, c'est intéressant, c'est important. Donc, en business. C'est honteux, c'est inadmissible. C'est inadmissible.
Je suis désolée.
Aujourd'hui, en 2022, d'en arriver à un sexisme pareil, ou encore les femmes sont la dernière roue du carrosse et ça sert à rien, j'ai pas de mots.
Ok,
je te rejoins à 200% Marion, mais il y a une différence si c'est les hommes et les femmes ou les pros et pas les pros.
Ah non, mais les femmes sont
en pro, professionnelles.
Oui, les femmes sont
les équipes de France.
Non, oui, bien sûr, mais c'est pour ça.
Pro, oui.
Mais
il gagne 10 fois moins d'argent que les pros masculins, ça, c'est une certitude.
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, c'est leur job, ouais. Beaucoup. Non, mais alors, il faut savoir que, comme le disait Denis, ça coûte très très cher d'aller en Australie. D'ailleurs, il y a plusieurs nations qui ont refusé d'aller faire ces championnats du monde, qui interviennent en plus fin de saison comme ça. Tu es obligé de te faire, c'est quoi, 30 heures de voyage en tout, hein, pour arriver jusque là-bas.
Et
ça coûte très très cher à toutes les fédérations. Certaines ont renoncé, mais je pense que le choix qui a été fait par la fédération française, c'est pas possible. Ou tu fais un tirage au sort. T'as 9 places en business. Et ben, tu fais un tirage au sort. Et puis les 9 heureux voyagent en business.
5 femmes, 4 hommes.
Mais c'est pas possible. Tu peux pas.
À noter que les Françaises, tout au courant, lorsqu'elles ont été sélectionnées, ne se sont pas opposées à cette solution de voyage.
On leur a dit, écoute, si tu gueules, tu restes en France.
Ben oui, exactement.
Oui.
Elles ont quoi comme option?
Non, mais j'entends ce que vous dites. Hein. Je veux juste pas qu'on s'indigne après tout. C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, quand tu parlais de sexisme, Marion, je dis juste que c'est pas juste les hommes et les femmes. C'est juste l'équipe professionnelle et après tout le monde, toute la délégation a voyagé en éco. C'est juste ça. Je voudrais juste faire ce distinguo.
Je sais pas si les présidents, le DTN, ont voyagé en éco en business.
Bon, je pense qu'ils ont voyagé en éco. Enfin,
Regarde Denis quand il est avec les Barbariens.
Ah ouais, non, mais ça, c'est
en éco, lui.
Ah bah alors Denis, c'est encore mieux parce que lui, il ne joue pas. Il y a que lui en business et tous les autres dans la bétaillère.
Non mais j'y sais, tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui en 2022, ce discours-là, il est inaudible.
Oui,
totalement.
Ouais, il est inaudible. Tu peux plus faire ça. C'est plus possible.
Je sais pas si Marion Rousse a fait le déplacement et si elle était en éco et que Julien était en business.
On va pas aller sur cette. Je sais pas. Voilà, j'ai pas la réponse à cette question. On essaiera de se renseigner.
Il a assez d'argent pour payer la business.
Elle est plus en équipe de France.
Ouais,
elle est directrice.
Oui, mais même s'il était élégant, il lui paye la business.
Comment tu dis, toi?
La business.
La business.
Ça s'est dit comment ça s'écrit? BEU, c'est ça? La business.
La business, c'est en première qui voyage.
arrête de dire ça.
Ok, de temps en temps.
Je suis en écho.
Seulement quand tu voyages.
Tu sais qu'à l'époque, avec l'équipe de France, j'ai fait 6-7 tournées. J'ai toujours voyagé en écho. D'ailleurs, Cyril, de la même façon. Et on est allé au bout du monde. Et on
ça doit être sympa, Cyril Marais dans la soute en écho. Pour
toi, Cyril, c'était forcément en business, non, avec vos gabarits de judoka, non?
Ah non, c'est pareil en judo.
Enfin, nous, on était vraiment en écho. Et enfin, après, voilà, toujours avec les moyens qu'on a au niveau de la fédération.
Il y en avait quand même un qui était en business, non?
Ah, vas-y.
Mais après, c'est toujours pareil. En fait, c'est toujours pareil. Il y avait une chose qui avait été annoncée au niveau de la Fédé. Si t'es 10 fois champion du monde, t'auras le droit d'aller en business.
D'accord.
Et pour l'instant, il n'y en a qu'un qui voyage en business. Mais bon, toujours est-il que oui, non, j'ai eu des souvenirs pour des France Japon où moi, à l'époque, j'étais en moins de 100 kilos. Je me suis retrouvé à côté de notre ami Jean-Sébastien, mon voisin, qui était 3e au championnat d'Europe. Et il avait cette particularité d'être un sportif incroyable. Il faisait le grand écart et il devait faire 1m75 pour son 40 kilos. Donc, mais il prend beaucoup de place dans l'avion. Donc, il faut
côté de l'autre. Messieurs comme vous, ça doit pas être évident. Non,
12 heures pour aller au Japon, ça fait un peu.
Quand tu payes ta place et que tu te retrouves à côté du grand gabarit, là, tu dois pas être très content. 10h56, on revient dans quelques instants. Le bras de fer des GG, qui aura le plus marqué et qui va le plus marquer l'histoire? Team Federer ou Team Serena? À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.